Mesdames, Messieurs, chers collègues, cher Moshe Idel, nous reprenons cette journée de travaux autour des recherches et des suggestions que les recherches de Moshe Idel nous ont proposées. Je ne devrais pas préciser, mais il se trouve que M. Corrado Bologna, qui doit prendre la parole en premier, est malheureusement absent pour un grave deuil en famille. Et il a néanmoins eu la générosité de nous envoyer son texte que je vais lire. Évidemment, je ne serai pas capable de soutenir une discussion à sa place. Je désire néanmoins évoquer le fait que Corrado Bologna, qui enseigne la philologie romane à l'Université de Rome III, est l'un des auteurs qui a permis, disons, les savants qui ont cherché autour des origines de la poétique du bruissement, l'un des premiers qui a donné un texte important, je le cite, Flatus Vocis, Métaphysique et anthropologie de la voix, publié à Bologne en 1992. Il a continué sa recherche autour de ce thème. Et aujourd'hui, il nous propose un titre, évidemment, référé à Dante, « Io mi son un che quando mor mi spira, noto », et je vais lire son exposé. Le lexique byzantin, connu comme Souda ou Suida, rapporte à la rubrique Aristote la définition suivante. Je cite, « Aristote était le scribe de la nature qui trempe sa plume dans la pensée. » Et la première encyclopédie médiévale, « Les étymologies d'Isidore de Séville », reprenant une idée de Cassiodore, propose une version légèrement différente. Je cite, « Aristoteles, quando peri hermaneias scribebat, calamum in mente tingebat. » Donc, là, encore une fois, trempe sa plume dans la pensée, calamum in mente tingebat. Giorgio Agamben a évoqué ces deux textes courts au début d'un essai très fin dédié au paradoxe du scribe qui préfère ne pas écrire. Et c'est en effet un paradoxe puisque le scribe doit écrire. Se niant et s'affirmant soi-même à la fois. C'est un peu le Bartleby inventé par Herman Melville, qui affirme en répétant toujours la même formule négative, « I would prefer not to ». Maurice Blanchot traduit en français, « Je préférerais ne pas ». Ces pages sur le scribe qui préfère ne pas écrire ont été publiées en italien, accompagnées d'une étude pénétrante de Gilles Deleuze sur le copiste qui nie soi-même Bartleby, la formule de la création. Ainsi, Agamben glose les deux anciens encyclopédistes. Je cite, « Ce n'est pas tant l'image du scribe de la nature qui est décisive que le fait que le nous, au sens grec, pensée ou esprit, soit comparé à un encrier dans lequel le philosophe trempe sa plume. L'encre, la goutte de ténèbres avec quoi la pensée écrit, est la pensée elle-même. » Traduction de Carole Walter. C'est justement dans une page d'Aristote que l'on découvre l'image d'où est probablement jaillie la tradition tout entière de ce topos qui est convoqué pour exprimer dans cette formule la puissance de la pensée. Pour l'intellect, je cite, dans le De Anima, troisième livre, il doit en être comme d'une tablette où il n'y a rien d'écrit en intellecti, c'est exactement ce qui se passe pour l'intellect. Ce texte aristotélicien a voyagé à travers les siècles accompagné de la réflexion du commentateur par antonomase, à savoir Averroès. Après 1250, il fut discuté dans toutes les universités médiévales, en commençant par celle de Naples, à laquelle Frédéric II donna la version latine écrite par son astrologue Michele Scotto. Le commentaire d'Averroès fut lu aussi par Thomas d'Aquin, qui réfuta la pensée averroïste dans un traité célèbre et encore par Guido Cavalcante par Dante Alighieri. C'est justement à cause d'une lecture différente de la catégorie aristotélicienne d'intellect que les sorts personnels et les parcours poétiques des deux écrivains se séparent, c'est-à-dire Cavalcante et Dante. De cela, il en résulte une interprétation radicalement différente du rôle que le libre arbitre joue dans le destin humain. Averroès, que je cite dans la traduction commentée d'Alain de Libera, dit alors « Il faut comprendre que ce que nous venons de dire de cette signification générale, celle de la passivité qui est dans l'intellect, à savoir qu'il agit d'une pure réception sans changement comparable à la réception d'une image sur tablette, a comme effet le fait qu'une tablette ne pâtit pas du fait de l'image et qu'elle ne subit aucun changement à cause d'elle, mais ne présente le caractère de la passion qu'au sens où elle est parfaite par l'image après avoir été peinte en puissance. Dans une note, Delibera signale que, je cite, Averroès fait lui-même référence à l'exemple du géomètre chargé d'éclairer la différence entre savant en puissance et savant en acte, qui elle-même illustre les différents sens de puissance dans Telechi. On rappellera sûrement, maintenant je reviens encore à de Bologne, que dans les derniers vers de la comédie, Dante illustre l'idée de l'incommensurabilité et ineffabilité de l'être suprême, à savoir l'idée de l'être elle-même, par la même métaphore du géomètre. L'architecte géomètre qui n'arrive pas à conjuguer la sagesse avec la connaissance, la puissance de sa pensée avec la pensabilité de l'impensable. Je cite ici la traduction de Jacqueline Risset, « Tel est le géomètre arraché tout entier à mesurer le cercle et qui ne peut trouver en pensant le principe qui manque. » L'esprit, Corrado Bologna revient encore à Giorgio Agamben, n'est donc pas une chose mais un être de pure puissance et l'image de la tablette à écrire sur laquelle rien n'est encore écrit sert précisément à représenter la façon dont existe une pure substance. En effet, toute puissance d'être ou de faire quelque chose est, pour Aristote, toujours aussi puissance de ne pas être ou de ne pas faire. Cette puissance de ne pas, entre guillemets, puissance de ne pas, est le secret cardinal de la doctrine aristotélicienne sur la puissance qui fait de toute puissance une impuissance. Il existe une compénétration profonde entre l'événement de l'écriture et la nature de l'intellect possible. Les poètes du Moyen-Âge italien, Cavalcanti et Dante, sont les seuls, à ma connaissance, qui aient saisi dans cette identification le point génétique de leur inspiration. L'esprit, cette tablette à prendre, est la dynamis où l'écriture peut, et en même temps peut ne pas, se réaliser en se transformant en acte. Mais c'est justement à ce point critique que l'aristotélisme dantesque, me paraît-il, dépasse et remet en jeu soi-même au moment définitif où l'origine de l'inspiration vient coïncider avec la frontière de ce qui peut être pensé. Dans les vers par lesquels se clôt la comédie, là où l'on cherche en vain, come si convenne l'imago al cerchio et come vi s'indova, comment se joint l'image au cercle, comment elle s'y noue, en connaissant par l'image, qui dans le lexique aristotélique est le fantasma, le géomètre d'Averroès saisisse la différence entre savant en puissance et savant en acte. Au contraire, Dante, géomètre, désiste, accepte le fait que la tablette, qu'est sa pensée, est impuissante à figurer l'infigurable. Donc d'un côté, il y a la possibilité, de l'autre côté, chez Dante, un désistement. Dante désiste parce que, par lui, avec lui, à cet instant-là, tout homme désiste. Ce n'est pas le viator seulement, mais l'humanité entière. Dante cède ici à une instance plus profondément humaine, l'idée à l'idée d'une limite sans remède, et achève ainsi son œuvre en laissant inachevé sur le seuil de la sortie l'événement de la pensée poétique. Ici, la haute fantaisie perdit sa puissance, mais déjà, il tournait mon désir et vouloir, tout comme roue également poussait l'amour qui me le soleil et les autres étoiles. Ceci donc pour ce qui concerne Dante. L'attente messianique pour que le texte s'achève en faisant naufrage dans le silence est consubstantielle à sa finitude. Dans cette hésitation prolongée entre le son et le sens, selon Valéry, est la poésie. Mais une autre question reste ouverte et est la suivante. Comment est-ce qu'on commence un texte ? Là, on a parlé jusqu'à présent de la fin de la comédie. Ou encore, dans quel lieu, physique ou mental? Et surtout, qui est-ce qui commence? D'où vient l'inspiration? Dans quelle manière et par quel parcours l'artiste écrit ou peut-être lit sur la tablette de l'esprit les images et les mots dans lesquels son intellect prend la forme de la parole, s'incarnant ainsi comme l'esprit dans le logos. Comment l'événement de la jeunesse poétique se manifeste-t-il sous la forme de mots? Au cœur de la comédie, dans le chant 24 du Purgatoire, le premier d'une série courte mais intense dédiée à une comparaison avec la tradition de la poésie lyrique romane et notamment provençale, Dante offre une réponse d'une valeur conceptuelle élevée, poétique et poétologique au problème de l'origine de l'inspiration de l'artiste. Inspiration toujours entre guillemets puisque nous sommes au cœur de ce problème. Ici, l'auteur fait référence non plus à l'image de la tablette ou du livre, mais à celle de la dictée du texte que le poète écrit, c'est-à-dire plutôt qu'il transcrit en le formant dans des notes, donc en lui donnant une forme verbale. Dante insiste sur le sujet créateur et inspirateur. Ce dernier n'est pas le poète, mais amour même, A majuscule, dans le moment de la création. C'est amour qui en même temps fait l'action de souffler et d'inspirer. Et les textes de Dante, vous les avez dans votre exemplier au numéro 1. Je suis homme qui note, quand amour me souffle, et comme il dicte au cœur, je vais signifiant. Purgatoire 24. Dans la traduction de Jacqueline Risset, exacte et subtile à la fois, l'on saisit en le situant dans son contexte historique le sens authentique des mots-clés contenus dans ces vers, qui représentent la déclaration de poétique la plus célèbre et la plus explicite de l'écrivain le plus illustre de son temps. Dans son voyage allégorique, Dante est un homme parce qu'il est littéralement chacun de nous et nous tous en même temps. Je suis homme qui note quand d'amour me souffle. Io mi son un che quando amor mi ispira noto. Donc le titre même de cet exposé. On dirait que Dante veut mettre entre parenthèses son intellect, sa subjectivité, en insistant sur le pronom. Cependant, le poète adoucit presque immédiatement son affirmation en déclarant qu'il est un qui, comme s'il voulait déplacer la charge ontologique sur une troisième personne abstraite et générique, l'homme, l'humanité. Juste après, il ajoute les vers fondamentaux qui décrivent l'événement de l'inspiration par amour et le service de transcription exécutif performatif auquel le poète se dispose. Ce dernier devient donc le copiste d'un dictateur qui écoute les mots de son maître et les transcrit exactement, fidèlement, dans la tablette du livre de la mémoire. A quel modo che dicta dentro va significando. Comme il dicte, c'est-à-dire amour au cœur, je vais signifiant. La fidélité du copiste qui est attentif à noter avec précision la dictée du dictateur afin de garantir la conservation et le retour de l'original fait en sorte que l'inspiration, dans l'acte où elle crée, coïncide avec une transcription. Donc chez Dante, il y a une coïncidence parfaite, au moins dans les intentions du poète, entre inspiration et transcription. Par conséquent, la création consiste dans l'écoute attentive d'une voix intérieure, de son dictare, dont les vers sont l'écho et la verbalisation. Le poète prête attention à cette voix qui le guide comme un élève qui suit un cours à l'école. La transcription des verba prononcés par le maître pendant qu'il dictate engendre un processus que Dante définit signification. Le copiste fait passer dans la copie la voix de l'original. Finalement, le sens viendra remplir la copie fidèle comme il remplit l'original dont le copiste est témoin et garant. C'est cette signification qui donne un sens au travail du scribe, c'est-à-dire la transcription écrite de la voix du dictateur. Or, dans le paradis 10-27, Dante se définit littéralement comme scribe. Je t'ai servi, à présent nourris-toi par toi-même, cette matière dont je suis le scribe demande pour soi tout mon soin. Quella materia, on dit, son fatto scriba. C'est vraiment la matière qui lui impose d'être le scriba. Ce n'est pas lui, donc, avec sa main de copiste, qui a écrit son livre, mais c'est un livre auquel a posto mano cielo e terra. Le ciel et la terre ont mis leurs mains. Paradis 25, 2. Pour composer le poème de l'univers entier. La première et la dernière œuvre de Dante confirme donc que tout le travail créatif du poète est une transcription dans un livre en papier composé de mots, mais qui se réfère, qui transcrit un autre livre, qui est évidemment celui que le magistère a sous ses yeux pendant qu'il dictate, c'est-à-dire l'original, l'origine, le principe du monde entier, dont il est le témoin fidèle. L'écoute d'amour qui souffle et qui dicte dans l'esprit du copiste exige le respect précis du modo, de la modalité de ce dictare. Ce modo équivaut au latin modus, qui dans la culture classique exprimait déjà une valeur musicale. Modus est la modalité et également la valeur musicale, puisqu'il correspondait à la mesure du son, à sa durée ainsi qu'à son hauteur et à sa dynamique. Sepe dicitur de mensura sonorum et vocum. On dit cela par rapport à la mesure des sons et des voix. Unde musica ratio et carminum metra constant. La musique et les modalités de la poésie sont avec le même maître. Se dit souvent de la mesure des sons et des voix, d'où la musique tire son essence, son sens, et que dont la poésie est constituée par la scansion métrique. Nous avons donc là un élément précis de liaison entre l'inspiration poétique, les modalités de son expression et les manières par lesquelles la musique s'exprime. Lorsque donc Dante proclame « Je suis homme qui note, quand d'amour me souffle, et comme il dicte au cœur, je vais signifiant », il a sûrement dans l'esprit un passage très beau et très important des Confessions d'Augustin, livre qu'il chérissait et qui est présent à sa mémoire tout au long de son poème. Entre les livres 10 et 11, après avoir traité de la mémoire et de la représentation antérieure des images par lesquelles on garde la perception passagère de la réalité, c'est-à-dire l'impression que les choses laissent dans toi à leur passage et qui restent après qu'elles sont passées, Confession 11-27, Augustin en vient à traiter du thème très difficile et fondamental du temps, l'implicatissimum enigma de sa mesure, l'énigme très compliquée de la mesure du temps. Là, il pose les jalons de l'entière réflexion moderne autour de la phénoménologie de la temporalité. Puisque nous avons dans cette filière Dante, Pétrarque, Montaigne, Pascal, et on arrive même à Bergson et Husserl. L'exemple de la poésie et de la musique surgit immédiatement dans le discours d'Augustin. « Je me prépare à chanter un chant que je connais. Avant que je commence, mon attente se tend vers l'ensemble de ce chant. Mais quand j'ai commencé, à mesure que les éléments prélevés de mon attente deviennent du passé, ma mémoire se tend vers eux à son tour. Plus cette action avance, plus s'abrège l'attente et s'allonge la mémoire, jusqu'à ce que l'attente tout entière soit épuisée, quand l'action tout entière est finie et a passé dans la mémoire. Et il en est ainsi non seulement du chant tout entier, mais aussi de chacune de ses parties et de chacune de ses syllabes, ainsi d'une action plus longue, ainsi de la vie entière de l'homme, dont les axiomes sont autant de parties, et ainsi de l'histoire entière des fils des hommes, c'est-à-dire de l'humanité. Tota vita hominis, Confession 11-28. Toute la vie de l'homme se déroule donc et coule comme le fleuve de notes musicales, en se scandant à la manière de mesures syllabiques d'une chanson. On touche ici au moment le plus haut de l'identification typiquement augustinienne de la vie à l'œuvre qui, dans la Divine Comédie, s'intensifie et devient emblème d'ascension spirituelle, une sorte d'itinerarium mentis in Deum. Dans la tendresse de la mémoire qui connote le temps humain du Purgatorio, Dante se penche pour un instant sur son enfance et sur sa jeunesse. Il redevient l'enfant qui suit la dictée de son maître avec une passion et affection, mais aussi avec un dévouement fidèle en prenant des notes sur un cahier. Ce n'est pas un hasard que Brunetto, son maître, est dans toute la comédie le personnage le plus réel, le plus concret, entre guillemets, celui qui a mieux savouré, pour ainsi dire, les données de la vie. Certainement, celui qui connaît le mieux le véritable Dante, le personnage Dante qui fait le voyage. D'abord, il s'étonne heureux de le rencontrer. « Qual meraviglia, merveille !» Et Dante, le reconnaissant dans ce lieu de peine et de douleur, pousse un cri. « Siete voi qui, ser Brunetto ?» « Est-ce vous ici, Ser Brunetto, qui retentira à travers les siècles jusqu'à Little Gidding, le quatrième des Four Quarters de T.S. Eliot ?» Le Dante auteur veut que le Dante personnage puisse rencontrer son maître. Ainsi, dans le chant 15 de l'Enfer, il le rappelle attendri et ému comme un père. Il faut remarquer que dans toute la Divine Comédie, ce sont exclusivement les deux grands poètes que Dante appelle père, Virgile et ici Brunetto. Car dans ma mémoire est gravé, vous voyez toujours le thème de la tablette, Et me navre à présent, la chère et bonne image paternelle de vous, quand sur la terre vous m'enseignez, heure après heure, comment l'homme se rend éternel. Enfer 15. Dante a sûrement dans son esprit l'expérience réelle avec son maître dicteur Brunetto, lorsque dans le chant 24 du Purgatoire, il proclame sa poétique de copiste fidèle d'amour, de transcripteur de son modus dans des notes musicales et dans des rythmes poétiques. Amour m'envoie qui me fait parler. Oui, encore une fois, la dictée. Hein, amour m'envoie qui me fait parler. Enfer 2, 72. Au dernier vers du poème, avec un choix lexical et syntaxique semblable, cet amour est défini comme l'amour che muove il sole et l'altre stelle. L'amour qui meut le soleil et les autres étoiles. C'est toujours l'amour qui met en voyage Dante et qui meut le soleil et les autres étoiles. On a reconnu depuis longtemps, à la base des vers du purgatoire que nous sommes en train d'examiner, l'influence de la pensée monastique, en particulier du courant de spiritualité augustinienne qui fleurit à l'école de Saint-Victor à Paris vers la moitié du XIIe siècle. Cette spiritualité tourne autour de la pensée de Richard de Saint-Victor, l'un des mystiques les plus hauts du Moyen-Âge, que Dante lui-même connaît très bien. En effet, il le situe comme ardente spiro, esprit ardent, à considérer più che viro, plus comme en contemplation, dans le chant dixième du paradis. Surtout, Dante évoque Richard de Saint-Victor dans la célèbre lettre par laquelle il accompagne l'envoi de la dernière cantique à Can Grande della Scala. C'est, et là vous avez le texte numéro 5, Isidoro beda Riccardo car considerar fu più che viro. Et tout de suite après, vous avez la lettre à Séverin sur la Caritas, texte numéro 6, l'un des plus beaux, et je vous prie de, surtout de lire les passages en gras dans le texte latin. Texte qu'aujourd'hui on a plutôt tendance à attribuer à frère Yvon, mais qu'on attribue à Richard de Saint-Victor au temps de Dante. Les premières lignes de la lettre à Séverin sur la Caritas renferment l'une des déclarations d'amour les plus belles de toute la littérature médiévale, qui nous étonne immédiatement à cause de son identité presque parfaite avec la formule inventée par Dante. Il suffira de lire les deux textes l'un à côté de l'autre, donc le texte numéro 7, pour saisir ce que je voudrais définir comme un palimpseste conceptuel. De quelle manière un homme qui n'aime pas, qui n'éprouve pas la puissance de l'amour, peut-il parler de l'amour? C'est seulement donc celui qui compose les mots, comme le cœur lui dit dedans, qui en parle finalement d'une manière digne. Qui secundum quod cor dictat interius, exterius verba componit. Je signale en passant que ce passage reprend le rêve de Bernard qui souhaitait pouvoir un jour, je cite, tremper la plume dans la langue et dans la source du verbe divin. C'est là une variation extraordinaire du topos qu'on a déjà reconnu dans la Suida et chez Isidore de Séville à propos d'Aristote, le scribe de la nature qui trempe sa plume dans la pensée. Le geste de tremper calamum dans le cœur ou dans l'esprit fait allusion au désir de conquérir l'authenticité profonde de la dictée antérieure. Pour résumer brièvement, « Imi son un che quando mor spira noto e a quel modo che i ditta dentro vos significando » Je suis homme qui note quand l'amour me souffle et comme il dicte au cœur, je vais signifiant. C'est vraiment la base de cette longue continuité. La correspondance mot à mot avec la lettre et l'esprit de la lettre à Séverin sur l'amour, donc Richard de Saint-Victor, est stupéfiante sur le plan lexicologique ainsi que sur le plan idéologique. La phrase tout entière et l'idée qu'elle trace est centrée sur le verbe dictare, qui signifie en même temps dicter et être un dictator, c'est-à-dire enseigner de vive voix. Moshe Hidel le rappelait ce matin à propos de la tradition juive. Il n'y a qu'une interprétation performante, on dirait aujourd'hui, de vive voix, chorale, il n'y a pas que le texte écrit. Pour Dante, est absolument la même chose, au moins dans l'interprétation que Corrado Bologna nous propose. La dictée intérieure d'amour au poète copiste qui écoute et qui transcrit coïncide chez Dante avec le spirare qui est à la fois soufflé et inspiré. Donc il y a le va-et-vient, soufflé et inspiré. L'inspiration est un souffle, mais nous le verrons avec Jean Delacroix également, un vent musical qui dicte Dante en contraignant à écouter et à transformer en mots ce modus rythmique musical. Et là aussi, l'époque romantique a repris cette idée qu'on peut avoir un rythme sans avoir de mots, et que le rythme exprime mieux que les mots. Quelques pages splendides d'un livre de Ivan Illich, In the Vineyard of the Text, dans la vigne du texte, soulignent que dans la culture médiévale, la résonance des lèvres et de la langue en mouvement correspond à la voix des pages écrites. On se souviendra de l'ébahissement d'Augustin devant les lèvres que son maître Ambroise à une époque où l'on lisait de vive voix, remué sans faire de bruit. C'est presque le commencement de la conversion d'Augustin. Dans la figure splendide de la communauté de Grommelant, décrite par Ivan Illich, se matérialise, en prenant une forme corporelle, l'événement de l'inspiration qui dicte dans celui qui devra signifier en transcrivant le modus, le rythme et la mesure selon lesquels l'esprit souffle dans le cœur et dans l'esprit. Et puis il cite Ivan Illich, « Selon Hugues de Saint-Victor, la lecture est une activité motrice à un sens corporel. Les lignes sont un parcours sonore, donc une sorte de pentagramme, que la bouche capte et que le lecteur prononce en lisant la page. En lisant, pardon, la page est littéralement incarnée et incorporée. La récitation collective se transforme en bruissement où chacun répète les versets qu'il profère. Ces versets sont la voie de son pèlerinage vers le ciel et quand il prie et quand il travaille. » Là encore, je renvoie à la théorie des cordes vers le ciel que Moshe Hidel nous avait décrit admirablement dans son volume. Ce bruissement étouffé de Dante, ce bruissement de la langue qui transforme en tressant les endécasyllabes que le poète russe Osip Mandelstam, dans son merveilleux discours sur Dante, représentait métaphoriquement comme le flux irréfrénable d'un essaim bourdonnant d'abeilles, édifie la ruche poème. En cherchant la définition d'auteur, Bonaventure de Bagnoregio, encore une fois, un élément, je me permets d'ajouter cette glose au texte de Bologne, un élément qu'il faudrait ajouter au bruissement, cette espèce de, je dirais, de bourdonnement harmonique et constant des abeilles autour de leur ruche. En cherchant la définition d'auteur, Bonaventure, maître franciscain très cher à Dante, éprouve le besoin de le distinguer du scribe qui se borne à copier par rapport au compilator et commentator qui recueille et réorganise les créations d'autrui. Et Ivan Illich donne encore le commentaire suivant. Le scriptor tient la plume, le dictateur, le guide. Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles qu'au XIIe siècle, l'auteur d'une page pouvait empoigner le style pour prendre une note sur une tablette de cire. L'idée de saisir la plume de la main ou de l'utiliser pour écrire sur un parchemin coûteux ne lui viendrait pas à l'esprit. C'était un autre personnage qui devait remplir cette tâche, le scribe ou calligraphe qui prête sa main au dictateur. La grande nouveauté que Dante introduit dans la formule de l'inspiration poétique est justement le souffle intérieur de l'esprit, le spirare d'amour, toujours majuscule bien sûr. Ce souffle, cet esprit, est une partie constitutive des puissances de l'âme dans une vaste tradition spirituelle de l'Occident, reconstituite par Elémir Zola dans Les puissances de l'âme. Il y a après un passage concernant Jean de la Croix, mais comme nous en parlerons dans un instant, je me permets de ne pas le citer. L'expérience du discours d'amour souffle dans le cœur ou dans l'esprit comme une inspiration qui est ensuite traduite comme le dictat, comme les dictats que le dictateur, c'est-à-dire amour, donne d'une manière impérieuse et constitue la partie centrale de l'idéologie amoureuse autour de laquelle le style nuovo construit sa poétique. C'est surtout chez Cavalcanti qu'une phénoménologie de l'abandon douloureux et extrémiste se fait jour. Déclinée dans une direction négative, la possession de l'esprit amoureux du poète par un amour invasif est décrit dans des termes qui s'approprient de la figure évangélique du baptême de Christ avec la descente de l'esprit sur son chef. Un esprit se dirigea du ciel vers ce point que cette femme daigna me regarder. Et il vint se poser dans ma pensée, il me raconte ainsi la vérité d'amour, si bien que j'ai l'impression de voir chacune de ses vertus comme si j'étais parvenu dans son cœur. Dans la comédie de Dante, parmi les nombreuses occurrences, donc ce texte de Cavalcanti est au numéro 8 dans l'exemplier, vous pouvez trouver le texte italien, et dans l'exemple 9, vous avez le texte que je vais lire. La cinquième lumière, qui est la plus belle, respire. Spira, il est difficile à traduire. Ici, là, le choix a été respire un tel amour. Mais on pourrait aussi dire émane. C'est une longue discussion qu'il faudrait faire. Que le monde entier, là-bas sur terre, en désire les nouvelles. Elle se tient le haut esprit où fut placé un si profond savoir que si le vrai est vrai, un être n'est pas né qui voit autant. A veder tanto non surse il secondo. Le retour presque identique du vers du Purgatoire au chant 24 est d'une valeur exceptionnelle. Ce dernier se réfère à Salomon, roi biblique et poète, que l'on tenait comme l'auteur du livre de la Sapience et des Psaumes, c'est-à-dire des textes qui étaient les plus présents à l'esprit et au cœur de Dante. D'une certaine manière, on pourrait dire que le dernier poète que l'on évoque dans la comédie n'est pas Folchetto de Marseille, dans le ciel de Vénus au chant 9 du paradis, mais c'est exactement Salomon dans le chant 10 qui s'ouvre sur le nœud inspiré amour concernant le mystère trinitaire, regardant en son fils avec l'amour que l'un et l'autre éternellement inspirent. Ici, le verbe spirare revient à nouveau et surtout pour Dante comme un verbe qui se réfère au scribe de la matière que l'inspiration lui offre. Dans un livre récent, Neige, un écrivain de nos jours, le Turc Orhan Pamuk, touche à plusieurs reprises le thème de l'inspiration poétique dans des termes qui me semblent capables de synthétiser le très vaste horizon problématique dont j'ai cherché d'éclaircir quelques angles. Et il le cite, « Il se sentait serein comme s'il était en train d'écrire une poésie que quelqu'un lui chuchotait à l'oreille, même si cela ne l'empêchait pas d'évaluer attentivement ce qu'il était en train de composer. On pourrait dire que c'est vraiment un texte venant du style nouveau, mais c'est pas Mouk. Encore, on dirait, écrit-il, que la belle poésie arrive toujours du dehors, d'un lieu lointain. Le dedans des poètes s'est désormais transformé en un dehors insaisissable, lointain, étranger. Au-delà du chuchotement à l'oreille, il ne subsiste aucune trace d'une dictée intérieure, musicale, à traduire en signification par un passage qui signifie avant tout la reconquête de l'autonomie créatrice. Dans un monde de plus en plus privé de la fatigue exaltante du stylo face à l'écriture facilitée de l'ordinateur, l'écrivain n'arrive peut-être plus à tremper sa plume dans l'esprit comme le faisait l'ancien philosophe que j'ai évoqué au début de mon discours. Là se termine l'exposé de M. Bologna, rédigé dans des conditions de deuil extrêmement difficiles. Et on voit très bien que, bon, dans son cas, il a réussi à tremper la plume de la poésie dans la pensée de notre tradition. Bien, je vous remercie. Et je ne sais pas si on peut vraiment poser des questions à une personne absente, mais on pourra éventuellement recueillir des questions et les soumettre à l'auteur. Bien, nous prendrons une pause à la fin du deuxième exposé et je suis obligé de me donner la parole d'une manière extrêmement impolie, mais je ne peux pas faire autrement. Et je viens donc à Saint-Jean-de-la-Croix. Mesdames, Messieurs, chers collègues, l'œuvre et les vers de Jean de la Croix, notamment le cantique spirituel et le poème « En una noche oscura » que j'ai distribué seulement pour les parties qui concernent le caractère musical de cette dictée poétique, semblent être les témoins les plus pertinents du thème que nous avons choisi pour notre colloque. La bibliographie sur cet auteur est inépuisable. Je me réfère ici simplement au livre de Max Milner, Poésie et vie mystique chez Saint-Jean de la Croix, paru en 1951 avec préface de Jean Baruzy. Un livre plutôt exceptionnel, Baruzy était déjà au sommet de sa gloire et Max Milner était un jeune licencié ès-lettres. Et le fait même qu'un grand savant comme Baruzy donne sa préface à ce livre montre la qualité de cette interprétation. Livre récemment publié aux éditions du Félin. Max Milner aborde un problème essentiel pour tout discours autour de la mystique qui se présente comme souvent le font les réécritures du cantique des cantiques sous forme de poème. La question est la suivante. Y a-t-il une spécificité de la parole mystique ou bien est-ce le regard a posteriori, par exemple à la suite d'une canonisation faite par l'Église, qui attribue ce caractère mystique à un texte essentiellement poétique? Est-ce que cela est déjà inscrit à l'origine ou bien c'est une espèce de lumière venant de l'après du texte? Problème épineux qui demande de la finesse et une double compétence quant à la poésie et à la mystique. Compétence que Max Milner avait parfaitement. Max Milner reconnaît qu'une bonne partie des figures poétiques par lesquelles Jean de la Croix tisse ses poèmes se trouve déjà chez Garcilaso de la Vega, grand poète de la Renaissance espagnole, 1503-1536. Prenons par exemple la strophe célèbre du cantique « Ô source d'eau cristalline ». Je vous lis le texte seulement dans la version française, la première, de 1622. « Ô source d'eau cristalline, si dans cette onde argentine je pouvais y contempler ces yeux qui me font trembler jusqu'au fond de la poitrine. » C'est évidemment, il y a des libertés par rapport au texte espagnol, mais le rythme est conservé. Eh bien, Max Milner nous fait remarquer que ces textes existent déjà, ces formules, chez Garcilaso de la Vega. Notamment, il cite un passage. Je vous lis d'abord l'espagnol parce qu'il y a ce rythme musical qu'il faut sauvegarder. El con canto accordado al rumor que sonaba de l'acqua que passaba. Vous voyez, même la rime, al rumor que sonaba de l'acqua que passaba. Lui, accordant son chant au murmure sonore de l'onde qui coulait, se plaignait d'une plainte si tendre et douce qu'elle semblait ne pas être absente, celle qui portait la faute de sa douleur. Donc, lyrique amoureuse, classique pour la Renaissance. Mais Max Milner ajoute que même des formules qui paraissent plus constamment liées à cette tradition et qui se répètent dans la Vive Flamme, autre poème de Jean de la Croix, peuvent être retrouvées dans la tradition de, par exemple, encore de Garcilaso. Il traduit un peu différemment eau cristalline. Il dit « Eau cristalline fontaine, si dans ce tien visage d'argent tu concevais soudain les yeux désirés. » Eh bien, là, Garcilaso avait dit « Eau claire onde, dans votre clarté, j'ai vu ma joie s'obscurcir toute et se troubler. » Donc, il y a des sources qui semblent être absolument pertinentes. D'autres passages de la tradition oxymorique qu'on prête au discours mystique, hein, la tradition de l'oxymore, nourrissent la flamme vive d'amour, mais se trouvent déjà dans le cancionero général. Et là aussi, je me réfère à un passage très pertinent de Max Milner. Un poème, comme, je le cite, comme la vive flamme d'amour est rempli d'expressions antithétiques telles que brûlure suave, plaie délicate, tu blesses tendrement, en tuant tu as changé la mort en vie, etc. Et la strophe 8 du cantique spirituel, avec sa précision alambiquée, pourrait passer par un de ces joyaux fabriqués, forgés par les poètes de la Renaissance. Je le cite et puis je reviens au cancionero général. Mais comment peux-tu persévérer, ma vie, à ne pas vivre où est ta vie et à recevoir la mort des flèches que t'envoie ce qu'en toi-même de l'aimer tu conçois. Et bien sûr, il reprend des éléments qui sont dans le texte espagnol. Mi vida vive muriendo. Si muriese, viviria. Hein? Ma vie vit en mourant, venant à mourir, elle vivrait, etc. Donc, c'est une tradition très constante, déjà dans la tradition du XVIe siècle espagnol, sans besoin de penser nécessairement à la tradition mystique. Max Milner dit bien au-delà que cette tradition pourrait être définie. C'est exactement ce que Moshe Idel disait ce matin à propos du contexte de la tradition néo-pythagoricienne. Ben, Unamuno le dit également, pour ce contexte, sans frontière précise entre la poésie amoureuse et la mystique, avec une formule très belle, unité due à l'eau environnant. Unité due à l'eau environnant. Il meurt celui qui vit mourant, car l'amour donne aux vivants plus de douleur. Muere quien vive muriendo, pues amor del que vive más dolor. Etc. Et Max Milner termine en disant que ces textes ne finissent pas de nourrir la poésie occidentale au point qu'ils trouvent une continuité avec le livre de la pauvreté et de la mort de Rainer Maria Rilke. Voilà le passage qui semble, d'après Milner, être tiré, et il y a en effet des résonances et des échos importants, tirés de la Noche Oscura de Jean Delacroix. « Fais, Seigneur, la traduction est de Adamoff, qu'un homme soit saint et grand, et donne-lui une nuit profonde, infinie, où il ira plus loin qu'on n'ait jamais été. Donne-lui une nuit où tout s'épanouisse, et que cette nuit soit odorante comme les glycines, c'est le même terme que chez Jean Delacroix, et légère comme le souffle des vents. » Voilà, vous voyez donc, nous avons là la continuité, disons, d'une tradition qui traverse l'Europe entière. Où faut-il donc trouver la spécificité de ce chant de Jean Delacroix ? Question importante, je ne prétends pas donner la solution, loin de cela, mais je voudrais au moins proposer une hypothèse. Ce que je suggère ici est une sorte de, entre guillemets, dépaysement des sources. Et leur remodelage autour d'un registre sonore. J'ai développé ailleurs, je ne vais pas le faire ici, mais il me semble que Jean Delacroix fait tout un travail de déplacement du registre iconique, le dibujo, hein, le dessin intérieur. Il y a tout un passage de cela, qui était déjà bien connu de la tradition de l'humanisme, de la Renaissance et même du maniérisme, de la fin du XVIe, c'est-à-dire le dessin intérieur, eh bien, il fait tout un passage de cela à un registre sonore qui, s'inspirant du Cantique des Cantiques, efface au cœur de cette nuit de l'âme tout caractère visuel pour déployer une richesse de ton en écho avec le silence. Il y a une espèce d'effacement progressif de l'élément visuel au profit de l'élément sonore, mais un élément sonore en écho avec le silence. Nous verrons à la conclusion de cette journée la communication de Madame Ricciarda di Belgioioso qui va peut-être dans cette direction. Défi admirable, bien évidemment, que les allitérations, les rimes, les assonances multiplient sans cesse d'un vers à l'autre, comme dans les strophes que vous trouvez dans votre exemplier, mais qu'il faut évidemment lire pour comprendre. Il y a des termes qui sont absolument intraduisibles, mais il faut les entendre. Mi amado, las montañas, los valles solitarios nemorosos, las insulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos. La noche sosegata. Mon aimé, les montagnes, les vallons solitaires ombreux, mais vous voyez, on a déjà tout perdu, hein? Los valles solitarios nemorosos, les îles étrangères, alors encore, les fleuves tumultueux, c'est pas possible, los ríos sonorosos, qui sont pleins d'échos sonores, hein? Sonorosos. Ce n'est pas un sonido, c'est sonoroso. Et là, on voit partir les sons dans toutes les directions. El silbo de los aires amorosos. Le sifflement des vents amoureux, mais là aussi, il y aurait à discuter et nous le ferons. Or, la richesse sonore de ces vers foisonne dans le commentaire que Jean Delacroix déploie comme explication spirituelle et que je vais vous lire seulement en partie, me référant pour une question, je dirais, de homologie conceptuelle. Je n'ai pas pris les traductions présentes de Jean Delacroix. Nous appartenons à un monde qui n'a plus ses échos. Nous ne vivons pas de bruissement, mais nous vivons de bruit. Le clangor latin, pas cette belle musique Nemo Rosa et Sabiduriosa aussi, on pourrait dire. Eh bien, je prends donc la première traduction française, Paris chez Adrien Topina, 1622. D'abord, le traducteur définit ce poème comme ode. J'aimerais bien discuter ce terme qui se présente avec des caractéristiques toutes spécifiques, mais je n'ai pas le temps et je viens tout simplement au texte. Il y a donc la strophe que je viens de vous lire est commentée pendant 18 pages, donc il y a un développement important chez Jean de la Croix, mais d'abord il faut que je vous lise la traduction d'origine, hein, c'est-à-dire la première traduction française. Mon ami est les hauts monts et les vallées solitaires et les îles étrangères, les bruyants fleuves profonds, pas mal, hein, les bruyants fleuves profonds, le souffle des vents amoureux. Eh bien, dans le commentaire que Jean de la Croix nous propose, il y a tout d'abord, je me permets de le souligner, ce caractère de dépaysement qui est concentré par Jean de la Croix sur l'interprétation de ces îles étrangères, las insulas extrañas. Il nous dit, quand l'âme voit en Dieu, elle voit des notions étranges, éloignées du sens commun, et elle les appelle îles étrangères. Alors, Giacomo Iori, ici présent, a fait des remarques importantes sur des livres récents qui n'ont même pas vu cela. Les îles étrangères, ce n'est pas les nouvelles îles retrouvées en Amérique ou les îles d'Utopia, texte qui circulait, bien évidemment. Mais c'est plutôt cette notion divine qui se présente dans la mer de l'être comme des îles étrangères. Puisque nous appelons quelqu'un étranger, quand il se retire du monde, ou bien parce qu'il est excellent et particulier entre les autres hommes en ses œuvres et déportements. Alors, ou bien parce qu'en effet, c'est quelque chose qui est retiré du monde, ou parce qu'il est excellent. Donc, Dieu est étrange, et étranger en même temps, parce qu'il est plus étrange que les îles désertes. Je n'ai pas le temps de vous lire ce passage merveilleux sur les îles désertes. Non seulement étranges, mais désertes. Postel avait écrit un texte magnifique en pensant que s'il y a encore un paradis terrestre, c'est dans un lieu où il n'y a pas d'empreinte humaine. Donc, pour être quelque chose d'important, il faut qu'il y ait et l'élément étranger et le désert. Autrement, ce n'est plus une île digne de cela. Et deuxième caractère, c'est le caractère de ce fleuve, hein, Los Ríos Sonorosos. Quelle est l'interprétation de Jean de la Croix? Eh bien, ces rythmes des fleuves couvrent tous les autres. Et il ajoute, il s'agit par-dessus tout, d'une voix et d'une harmonie, laquelle surpasse toutes celles du monde. Et ce gazouillis de rivière est une voix spirituelle qui n'a rien de son corporel, ni le bruit, ni la peine. Je voudrais ajouter que je n'ai pas le temps de vous lire, mais je peux vous assurer que ce que Jean de la Croix propose dans ses textes, c'est que quand nous prononçons quelque chose, nous créons dans l'ambiance, autour de nous, une espèce de résistance. résistance de l'air. Nous prononçons, nous déplaçons de l'air. Enfin, il y a une espèce de, je dirais, de crispation du fait que nous prononçons à haute voix. Et donc, une vraie prononciation est une prononciation, je le résume, liquide, qui ne crée pas de résistance autour. Donc, il dit sans qui ne connaît ni le bruit ni la peine de nos prononciations. C'est comme une voix et son intérieur qui revêtit l'âme de pouvoir et de force. Voix et son intérieur. C'est aussi une voix qui s'exprime à la dérobée. Alors, c'est un texte magnifique, je vous lis. Or, il me fut dit une parole cachée, et mon oreille l'a reçue comme à la dérobée, les vents de son murmure, et avec la vision d'une nuit au premier sommeil des hommes. Donc, vous voyez, à la dérobée, il y a quelque chose qu'il faut prendre assez rapidement parce que ça dure très, très peu, très, bref, très brièvement. Encore, il dit, c'est quelque chose qu'il faut recevoir avec l'oreille de l'âme. Ce matin, on a évoqué cela dans la communication concernant saint Thomas, l'oreille de l'âme. Je cite le passage. L'écriture est un vent délicat parce que de la subtile et délicate communication de l'esprit naît l'intelligence dans l'entendement. Corrado Bologna vient de l'évoquer. Ce souffle divin qui entre par l'oreille de l'âme est non seulement substance entendue, mais aussi une découverte des vertus de la divinité et révélation de ses plus rares secrets. Donc, là aussi, il faut avoir une sorte d'oreille de l'âme. Et il termine, je n'ai pas le temps de vous proposer tout, mais il termine en citant le passage que j'évoquais ce matin à propos d'Élie et de l'Oreb, et il dit que cette communication est savoureuse. Donc, il y a d'abord une levitas du souffle, mais aussi la saveur. Et là, je viendrai à la fin sur ce point. C'est-à-dire que Dieu nous communique un très suave amour, savoureux à soi et très précieux à Dieu. C'est donc, pour conclure, comme il le dit, une solitude forte sonnante. Ce qui est un peu paradoxal, mais c'est exactement ce que Jean de la Croix veut nous montrer, une solitude très sonnante. Vous voyez que partout, le langage musical remplace le langage visuel. Le choix fait par Jean de la Croix s'éloigne donc de l'évidence et de l'abondance que le texte biblique attribue à la parole divine quand elle se révèle. Et que Jean de la Croix rappelle dans son prologue au lecteur avec des termes très marqués, réalistes et surprenants. Mais justement, il ne prendra pas ce chemin. Néanmoins, il le rappelle, je le cite, « Voilà pourquoi, avec des figures et comparaisons et similitudes, il, c'est-à-dire les textes bibliques, dégorge plutôt quelque peu de ce qu'il sent et crache de l'abondance de l'esprit des secrets mystiques. » Donc, des termes très forts, dégorge, crache de l'abondance de l'esprit des secrets mystiques. Mais ce n'est pas le chemin choisi par Jean de la Croix. Son choix, lui, est plutôt celui du son qui passe par le gazouillis, par le son intérieur et surtout par l'attouchement et le souffle. C'est une formule que Jean Delacroix répétera dans tout le commentaire et qui apparaît ici la première fois. Voilà le passage. On entend deux choses en l'air, l'attouchement et le souffle, ou le son. De même, en cette communication de l'époux, on sent deux autres choses, à savoir les délices et l'intelligence. Non seulement les délices au point de vue de la poésie amoureuse, mais aussi l'intelligence au point de vue de la union, de l'union avec le divin. Et puis encore, il dit, davantage, elle dit, l'épouse, que le vent amoureux vient lorsqu'il souffle doucement et contente. Le terme français est bon, ça appartient à la tradition du XVIIe, contente l'appétit de celui qui désirait ce rafraîchissement et recrée l'attouchement, comme aussi Louis est chatouillé du son et du sifflement du vent bien plus que l'autre. Vous voyez les termes. Donc il y a ce rafraîchissement, l'attouchement, et lui-même est chatouillé du son et sifflement. Ce sont des termes. Là, le texte français est très fidèle au texte espagnol, et il faut dire que les traductions modernes n'osent pas arriver à cette précision. Je pourrais encore continuer, mais je veux arriver à une conclusion qui, comme ce matin pour saint Thomas, va dans le sens opposé. Nous pourrions dire que là, de là, nous avons l'exemple d'une poésie de l'impalpable, telle l'écho d'une caresse. C'est absolument littéral, là aussi, attouchement, attouchement et souffle, écho d'une caresse. Mais tout cela risque facilement de se perdre. Et voilà la deuxième et dernière partie, plus brève, c'est-à-dire quelle est en réalité la possibilité de résister, pour ainsi dire, de ces termes d'une poésie, pour ainsi dire, si belle et si fragile. Eh bien, nous avons tout de suite la possibilité de le vérifier en prenant les traductions, et déjà les premières traductions, dans les langues latines, c'est-à-dire là où les carmes ont mieux passé, c'est-à-dire en France et en Italie. Prenons tout d'abord ce passage, pour moi, l'un des plus beaux vers de la littérature occidentale, c'est-à-dire le premier vers que vous trouvez dans votre exemplaire, « L'aire dell'almena ». C'est une figure héraldique, « L'aire dell'almena quando io sus cabellos esparcia ». Traduction de Milner, « La brise du créneau lorsqu'avec ses cheveux je jouais ». Mais en réalité, le texte de Juan de la Cruz est bien plus radical, avec ce mouvement de brise qui passe par les créneaux des remparts, vous voyez, les airs de la brise qui passent par les créneaux des remparts, comme les doigts de l'amoureux passent par les cheveux de l'aimé. C'est comme si on passait les doigts à travers les cheveux et avec une image magnifique, et je dirais de ville céleste, il y a la brise qui passe à travers les créneaux. Vers qui sont d'une figuration en même temps cosmique, érotique, subtile et puissante. Eh bien, si nous prenons maintenant les traductions, nous sommes complètement déconcertés. Ces vers, déjà, sont amoindris dans l'édition espagnole de 1630. Vous savez bien que la réception de Juan de la Cruz a été extrêmement difficile, même s'il a été tout de suite traduit à cause de l'activité des carmes en Italie et en France. Mais déjà, le texte espagnol de 1630 a une petite variante, mais qui est essentielle. Il y a une petite correction au vers 2. Vous voyez, là, vous lisez, quand « io », sus cabellos esparcía. Donc c'était moi-même hein, que je jouais, je caressais, je passais mes doigts à travers les cheveux de mon aimé. Eh bien, le texte espagnol de 1630, avec une subtile correction, dit « Cuando ya sus cabellos esparcía », c'est-à-dire « quand elle déjà ouvrait au vent ses cheveux ». C'est tout autre chose. Puisque « esparcía » peut être aussi la troisième, eh bien, en passant de « yo » à « ya », tout change. « Cuando ya sus cabellos esparcía », quand elle déjà ouvrait au vent ses cheveux. Toute la puissance érotique et fantasmatique de ce texte se perd, évidemment, tout simplement avec un « ya » qui est maintenu aujourd'hui dans les traditions critiques en bas de page, mais ce n'est pas une question philologique, c'est une question très substantielle. Si nous prenons après les textes... je vais couper là. Plus encore, cela apparaît dans la traduction française de 1641 et dans la traduction italienne de 1627. Le texte français, que nous trouvons à la page 67 des œuvres spirituelles, dans l'édition, cette fois, Chevalier, Paris 1641, est complètement changé, hein, avec une liberté inouïe, mais qui n'a plus rien de Jean de la Croix. Je vous la lis. L'aurore, par ses doux zéphyrs, ayant espar sa chevelure. Alors, il n'y a plus l'almena, cette idée puissante d'un vent qui passe à travers les crénons comme les doigts à travers la chevelure de l'aimé, mais il y a un texte très idyllique, très Giambattista Marino, pour ainsi dire, l'aurore par ses doux zéphyrs ayant espar sa chevelure. Voilà, moi je dirais que Jean de la Croix ici est déjà fini. Il n'y a plus de Jean de la Croix. C'est un texte, je dirais, très normalisé, très inscrit dans la tradition. L'aurore par ses doux zéphyrs ayant espar sa chevelure. La traduction italienne est encore plus subtile dans sa manière d'abandonner le texte, parce qu'elle fait un jeu paronomastique, un jeu d'allitération entre almena, un crénom, et amena. Amena, donc, joyeusement idyllique et bucolique. Quando poi l'aura amena ventilargli il bencrin lenta sudiva, hein, avec des accusatifs à la grecque, tout ce que vous voulez, mais désormais, c'est exactement comme la traduction française, l'aurore en français avec ses doux zéphyrs, et en italien, l'aura, hein, amena, au lieu d'almena. Là aussi, comme vous le voyez, il y a une normalisation face à laquelle on se demande où Saint Jean de la Croix est-il. Je n'ai pas le temps encore de vous proposer d'autres textes, mais je vais venir à la conclusion. Conclusion évidemment, comme ce matin, n'est pas une, elle nous oblige à penser autrement nos textes. Peut-être la fascination du texte de Jean de la Croix est, nous le voyons, dans cette suspension. « I todos mi sentidos suspendia ». Suspension d'une vibration sonore prête à disparaître, presque un moderne verlöschend par lequel se termine le cantique. Et alors, je vous lis le passage final, je ne sais pas si je l'ai mis dans l'exemplier, non, je suis désolé, mais le cantique se termine de la manière suivante, « Quedeme y olvideme, el rostro recliné, sobre el amado. » Pour traduire à la lettre, on pourrait dire « Je restais et je m'oubliais ». Que la traduction italienne, en renonçant à l'articulation du temps verbal, c'est-à-dire au passé d'une action déjà faite, laisse ouverte à l'infini. Et là, au moins, pour une fois, elle est fidèle au texte. « Sospesa in alto oblio ». Il volto allor posai sopra l'amato. et le rostro recliné sobre l'amado, mais ces deux verbes du commencement, sospesa in alto oblio. On pourrait dire que ce poème, ces poèmes de Jean de la Croix, sont dans cette espèce de suspension, dans un oubli. Et c'est pourquoi ce matin, j'ai posé la question pour le texte de suspendu dans un autre oubli. Alors, il y a quelque chose qui, indépendamment de la tradition, mais qui est littéralement du même registre. Et je conclue vraiment. Si nous n'allons pas dans cette direction, il faut alors reconnaître que ce aspirar sabroso, encore une fois, l'aspiration, inspiration, le verre vient de la flamme d'amour vive, aspiration savoureuse, n'est plus qu'un lieu de silence, ou pour le dire dans les termes de Juan de la Cruz, primor y delicatezza. Je traduirai avec merveille de délicatesse, qui passe, et là c'est une variante du texte, delicadissimamente en nous. Un superbe latif qui est en train aussi de mourir en le disant, delicadissimamente en nous. Jean de la Croix, lui aussi, dans les deux rédactions de son texte, ne sut choisir entre primor y delicatezza et delicadissimamente, delicadissimamente. C'est l'une manière ou l'autre un attouchement sans fin de la déitade, sans jamais pouvoir la saisir, sans jamais pouvoir définir les termes mêmes par lesquels nous essayons de définir cet attouchement. Voilà, je vous remercie. J'ai terminé à peu près dans les temps prévus. Alors, nous avons, je crois, 5 minutes pour des questions éventuelles. Après, nous prenons une pause et nous recommençons pour la partie finale à 16h05.